L'humanité est confrontée au défi de sa croissance démographique et de son autosuffisance alimentaire dans de nombreuses régions du monde. Alors parmi les richesses à préserver, l'eau arrive dans le peloton de tête et chacun de nous est concerné par ce défi. Conscient des difficultés croissantes à garantir en toute saison l'approvisionnement en eau potable, l'association La Passifleur de Fougères s'est lancée dans une expérience éco-citoyenne pour montrer qu'il est possible dans sa vie quotidienne de réaliser des économies d'eau importantes et durables. Que ce soit à Fougères ou à Rennes, que pouvons-nous faire pour changer de regard et de comportement pour préserver les richesses naturelles et à commencer par l'eau? Alors nous vivons dans une société qui pousse à la consommation, mais les ressources de la nature ne sont pas extensibles. Justement, pour découvrir ce projet et analyser un petit peu les tenants et aboutissants de cette expérience menée par des foyers témoins à Fougères, je reçois aujourd'hui Bérangère Pasquet, qui est coordinatrice du projet, Mathilde Harvet, animatrice bénévole dans cette association, le Passifleur, Joseph Boivant, qui est président du syndicat mixte de production d'eau potable du bassin du Couesnon, et Stéphane Berthaud, représentant un foyer témoin donc du pays de Fougères. Enfin, Carole Lemoigne du CLÉ, le Conseil local à l'énergie, donc ça c'est Rennes. Et nous verrons ce qui se fait aussi justement dans la capitale bretonne. Alors tout d'abord, comment est né le projet Préserve Eau? Fougères est-elle, disons, placée dans une situation particulière qui faisait qu'il y avait peut-être un terrain favorable ou une urgence particulière à mener une expérience pour les économies d'eau au quotidien?
Alors en 2005, l'association La Passifleur a mené une opération « Je réduis mes déchets ». Il s'agit d'une opération comprenant 30 foyers témoins qui ont pesé leurs déchets sur toute une année pour apprendre à comment réduire sa production de déchets. La Passifleur a souhaité reconduire ce projet sur une autre thématique qui est la thématique de l'eau, donc sur toute l'année 2010 avec l'opération « Préserve eau ». Alors pourquoi sur l'eau? Alors en fait, à Fougères, on a l'impression qu'il pleut beaucoup, on a un sentiment d'abondance.
Mais quand on annonce la météo ici, hein, on dit toujours à Fougères, Vitré, davantage de pluie.
Voilà, mais finalement,
la nature du sol peut-être n'est pas favorable à la conservation de l'eau.
Les ressources en eau, en fait, ne sont pas forcément bien réparties dans le temps. C'est vrai qu'en été, c'est là où on va avoir le plus besoin de puiser de l'eau, donc pour les différents arrosages, les différents gestes au quotidien. Et c'est là où on va avoir une pénurie, donc notamment cette année avec la sécheresse qu'on a pu voir au mois de juillet.
Oui, donc à Fougères, comme dans beaucoup de secteurs de Bretagne, le problème, c'est l'absence de véritables nappes phréatiques, qui fait que c'est surtout de l'eau de surface qui est disponible. Alors donc cette expérience, vous l'avez pressentie, celle sur les déchets ça avait marché, hein, bon, et vous vous dites vous vous lancez dans une expérience sur l'eau, mais bon, c'est pas si évident que ça de mener une expérience auprès des gens.
Tout à fait. Donc pour mobiliser les foyers témoins, on est vraiment allé à la rencontre des habitants du pays de Fougères. Nous les avons rencontrés sur les marchés, à différents forums des associations, par les personnes que connaissent les bénévoles de l'association. Et on a également essayé de rencontrer les personnes qui avaient participé à « Je réduis mes déchets ». Donc nous sommes allés les voir. Et notre objectif, en fait, c'est vraiment de les impliquer concrètement dans une expérience de réduction de la consommation et de la préservation de la qualité de l'eau.
Alors justement, très concrètement, pour avoir des foyers témoins, vous avez fait quoi? Mis un article dans la presse, fait des annonces dans des lieux précis, vous êtes allé voir des gens que vous connaissiez
Voilà, exactement, on est allé voir des gens qu'on connaissait, il y a eu plusieurs articles qui sont parus dans la presse locale et également sur différents sites internet, notamment celui de notre partenaire d'honneur, le Sage Couesnon.
Le sage Couesnon, donc, alors rappelons en deux mots, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un sage. Voilà, on va demander à Mathilde Harvet, qui est donc animatrice à La Passifleur.
Tout à fait, je représente l'association La Passifleur, justement au sage Couesnon. Donc le sage, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Couesnon. On appelle ça habituellement le parlement de l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont représentés les grands consommateurs, les grands producteurs d'eau, les grands utilisateurs d'eau, que ce soit principalement les collectivités, privée, les industries, le monde agricole est représenté bien entendu, mais aussi le monde qui apprécie l'eau ou les milieux aquatiques, ça peut être les randonneurs, les associations de kayakistes, les pêcheurs et les associations de protection de l'environnement comme la Passiflore.
Donc Joseph Boivant, vous faites partie du SAGE.
Tout à fait, oui, je siège donc au SAGE Queno en tant que producteur, en tant que donc représentant tous les syndicats d'eau du pays de Fougères. Et donc c'est vrai que le SAGE est élaboré autour de plusieurs thématiques. Donc il y a la thématique besoin ressources, la thématique milieu aquatique, la thématique aussi puisque donc le Queno se jette dans la baie de Mont-Saint-Michel. Donc estuaire et baie du Mont-Saint-Michel. Et donc pendant à peu près environ 2 ans, il a été fait un état des lieux. S'ensuit enfin donc une définition d'une stratégie pour élaborer une démarche de reconquête de la qualité de l'eau en gros et de préservation des milieux.
Alors, vos soucis en tant que président de ce syndicat mixte de production d'eau du bassin du Couesnon, c'est quoi? C'est garantir l'approvisionnement en toute saison. Donc la Passiflore nous disait tout à l'heure que parfois c'était difficile en été notamment. Est-ce que vous avez des suées froides, si je puis dire, parfois certains étés?
Alors c'est vrai que quelques étés on se fait peur. C'est vrai que moi je présidais à l'époque donc un petit syndicat en 2003 et on a eu donc, puisque vous le citiez tout à l'heure, la Bretagne a la particularité d'avoir des nappes phréatiques très peu abondantes et nos ressources proviennent essentiellement donc des rivières, des ressources superficielles, et on est soumis donc avec les climats à cette fluctuation et principalement en été avec une baisse justement des débits. Et donc en contrepartie, nous sommes soumis à des débits d'étiage, donc à réserver un débit minimum pour les milieux aquatiques, pour la vie donc dans les rivières. Et au-delà d'une certaine quantité, on ne peut plus prélever. Alors c'est vrai que c'est parfois un souci, et on l'a revécu. On a eu peur encore cet été 2010, puisqu'on a eu avec un printemps un peu sec. Et donc quelques jours où vraiment en juillet 2010 il y a eu des difficultés. Bon, après on a été un peu plus rassuré puisque en août on a eu des pluies à venir, donc on a été rassuré. Alors les collectivités productrices et distributrices ont l'obligation, évidemment, d'assurer de l'eau au robinet de l'usager. Ils comprendraient pas qu'en leur demandant donc une facture, on n'ait pas l'obligation de service public. Et le souci à Fougères qu'on peut avoir, c'est ce n'est pas la quantité. On a un peu de, donc dans le pays de Fougères, il y a 3 captages prioritaires, donc un peu contraints par la qualité, notamment en termes de nitrates. Et donc c'est vrai que il y a des grosses opérations de reconquête de la qualité de l'eau de menée et avec des premiers bénéfices qui arrivent. Mais je pense que les syndicats d'eau ne peuvent pas se désintéresser d'une politique d'économie d'eau. Ce serait pas durable.
Justement, puisque c'est de l'eau superficielle, enfin de l'eau de surface, quoi, de l'eau qui dans les cours d'eau, elle est plus vulnérable aussi à la pollution, à l'environnement, alors qu'une nappe phréatique, l'eau est déjà davantage filtrée, quoi.
Alors justement, donc c'est certainement ce qui a fait bouger la Bretagne en premier, c'est que, étant donné que c'est une eau superficielle, elle a été contaminée la plus vite. Hein, contaminée n'est pas forcément le vrai mot, mais sali la plus vite. Et donc, ce qui a enclenché en Bretagne des programmes d'action beaucoup plus tôt que dans les autres régions de France. Mmh. Mais on peut espérer que, étant donné que c'est de l'eau superficielle, les résultats soient plus rapides aussi que dans une nappe. Si on pollue une nappe phréatique, on peut imaginer qu'il faut beaucoup plus de temps pour récupérer cette qualité.
Voilà, donc il y a un changement de comportement à avoir. Alors, on verra peut-être ça tout à l'heure, mais d'abord, Stéphane Berthaud, donc revenons à l'expérience elle-même, hein, menée par la Passiflore. Comment vous avez été contacté? Pourquoi vous a-t-on contacté? Comment vous avez réagi?
Moi, j'ai été contactée par un couple d'amis.
Donc ça, c'est le bouche à oreille hein, qui fonctionne,
oui,
c'est ça?
Ils étaient déjà inscrits dans le projet. Et ça m'a intéressée parce que j'étais déjà sensibilisée à tous les problèmes d'environnement. Mais je me suis dit que je faisais déjà attention. Je pensais pas que ça changerait grand-chose, en fait. Et puis,
finalement... Vous partiez comme ça un peu...
J'ai accepté parce que je trouvais que c'était bien de faire ce projet. Mais je pensais pas que ça changerait grand-chose pour moi.
Parce que vous pensiez que vous étiez déjà suffisamment économe.
Oui,
C'est ça. Donc, vous avez, est-ce que vous êtes déjà engagé, je sais pas, dans les associations, un peu environnementalistes ou bien de consommateurs, je sais pas.
J'ai été à la Passiflore pendant de nombreuses années avant, il y a longtemps.
Donc, vous pensiez que vous étiez vacciné et puis bien informé, converti, si je puis dire,
avec
vos économies d'eau.
Et en fait, j'ai fait une économie d'eau de plus de 33%.
De 33%?
Oui.
Alors dites-nous comment, parce que là,
c'est
on tombe
étonnant.
Des nues, là.
Bah, je faisais déjà attention à ne pas laisser couler de l'eau, etc. Oui. Mais
donc par exemple, quand on se lave les dents, on prend un verre au lieu de laisser le robinet tourner.
Oui, il faut surtout pas laisser couler l'eau. Pour la vaisselle, c'est pareil.
La vaisselle, pareil.
Mais les choses essentielles que j'ai changées, c'est pour la douche. Quand on tire de l'eau pour la douche, il y a un certain temps avant que l'eau ne soit chaude. Donc je me suis acheté des seaux pratiques en plastique et j'ai récupéré cette eau-là qui m'a servi. L'été, elle me sert pour arroser mes fleurs sur les fenêtres et les balcons. Et surtout, je l'utilise pour les toilettes.
Voilà. Donc c'est vrai parce que donc il y a de l'eau qui reste en permanence dans les tuyaux quand on prend de l'eau chaude,
oui,
évidemment.
Avant qu'elle soit chaude, il y a de l'eau qui s'écoule.
Et donc généralement, la plupart des gens laissent couler cette eau-là.
Mais,
quoi.
Oui, je la laissais couler aussi parce que je m'étais jamais posé la question en fait.
Mais alors est-ce que quand même, vous étiez de la Passiflore, donc vous étiez un petit peu de la famille, si je puis dire. Mais ceci étant dit, est-ce que c'est facile quand même d'accepter qu'on vienne regarder chez vous ce que vous faites parce que c'est ça que vous avez fait.
Bon, c'est pour ça, oui, pour la douche, ce genre de choses. Mais j'ai aussi changé des choses sur les toilettes. Ça, c'est un peu moins évident.
Là, c'est
évident.
Encore plus intime.
Oui. Mais là, ça a été, au lieu de tirer la chasse d'eau à chaque pipi, on la tire que tous les deux ou trois.
Voilà.
Et ça fait une sacrée différence.
Ça fait une sacrée différence.
Je pense que c'est essentiellement là que j'ai économisé toute l'eau.
Carole Lemoigne, déjà, premier regard que vous portez sur ce type d'expérience. Alors, au clé, vous ne menez pas ce type d'expérience. Vous allez pouvoir nous dire en deux mots déjà quel est un peu votre cœur de cible par rapport aux économies d'eau. Quel regard vous portez sur l'expérience, là?
Moi je trouve ça très intéressant. Nous au clé on travaille à la fois avec les particuliers mais aussi avec les professionnels. Donc là dans le cadre d'un programme d'économie d'eau que met en place la ville de Rennes là qui a commencé l'année dernière en fait. On a aussi plusieurs actions de sensibilisation et d'information sur les gestes quotidiens. Mais c'est vrai qu'on va pas aussi loin en fait que cette action puisque là il y a vraiment un suivi, vous allez chez les gens, c'est vraiment c'est assez particulier puis on voit les effets que ça porte. Donc
ça suppose une grosse mobilisation là, c'est
oui,
ça.
Oui. Oui, tout à fait. Et donc voilà, mais.
Alors à Rennes, par exemple, la sensibilisation aux économies d'eau, c'est quelque chose de déjà ancien, relativement récent par rapport aux enjeux d'une ville comme Rennes.
Ouais, non. La ville de Rennes a mis des choses en place depuis. Si je me trompe pas, depuis les début des années 90, avec un programme qui s'appelait Ville Pilote, et c'était en partenariat avec la région et l'Agence de l'eau. Ensuite, elle a signé en 2000 et pendant 5 ans, donc jusqu'en 2005, la charte environnement, où il y avait tout un volet sur les économies d'eau avec les particuliers, les entreprises, les bailleurs sociaux également. Et puis, depuis l'année dernière, donc il y a un programme d'action qui est lancé et qui vise donc à la fois les particuliers et les professionnels.
Largement, les particuliers en partie.
Et puis également aussi, la ville de Rennes agit aussi dans ce cadre-là, mais enfin, l'a toujours fait sur ses bâtiments.
Sur ses équipements, voilà. L'équipement récemment dans les maternelles, le changement
de les
tout,
salles de sport,
les chasses d'eau, etc. Ouais. Pour limiter les débits d'eau, etc. Mais les particuliers à Rennes, très concrètement, comment réagissent-ils? Alors, Stéphane Berthoud, vous avez vu la réaction. Au début, elle croyait qu'elle n'avait pas d'économie à faire. Et après, elle s'est aperçue qu'on pouvait aller jusqu'à 33% d'économie.
Oui, tout à fait. Alors, sur Rennes, c'est un peu difficile.
Oui, Madame Berthoud.
Je voudrais quand même dire que je vis seule et que quand on a des enfants, à mon avis, c'est pas si
facile.
Ouais,
c'est ça. Oui. C'est vrai que quand on est seul, on peut se permettre des choses.
Oui.
Ne pas tirer la chasse, par exemple. Quand on est à plusieurs, c'est plus compliqué.
Oui. Alors, c'est difficile à avoir ce genre d'informations puisque par rapport aux différents programmes qu'il y a eu, il y a pas eu vraiment d'évaluation en fait de fait de choses quantifiées, mais on sent bien quand même que c'est vraiment dans les mentalités, dans les choses qui avaient été faites dans le cadre de la charte environnement. Il y avait eu des récupérateurs d'eau de pluie, des citernes qui avaient été vendues, donc ça avait très bien marché. Il y avait aussi tout un équipement, des douchettes économes, des mousseurs, des choses comme ça qui avaient été proposées aux particuliers. Ça aussi, ça avait bien marché.
Mais il reste encore, je veux dire, beaucoup de travail à faire. Je veux dire, il y a une possibilité. Parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure des équipements de la ville de Rennes. Donc, il y a eu une présentation il y a quelques semaines dans une maternelle, justement. Hein. Mais les équipements de la ville de Rennes, ça représente, je crois, 5% peut-être de la consommation totale.
Ouais, 8% je crois.
Ouais, c'est ça. Entre 5 et 10%.
Oui. Non, mais le plus gros, ça reste dans le domaine privé, on va dire, et puis au niveau de... des professionnels. Donc nous, quand je dis professionnels, moi je pense, puisque c'est avec eux qu'on va travailler dans le cadre de ce programme-là, aux hôtels et puis au commerce, en fait.
Voilà, hôtels et commerce, sûrement. Mmh. Là, par exemple, hôtels et commerce, hôtels en particulier, il y a une certaine conception du confort qui fait que c'est pas forcément évident d'accepter, de limiter.
Oui, mais il y a déjà, techniquement, on peut avoir des appareils économes en eau qui ne changent rien du tout au confort. Et puis voilà, après, dans des choses assez simples, ne pas laver les serviettes après chaque nuit ou des choses comme ça. On peut faire des économies.
Ce qui était considéré comme une norme d'hygiène.
Voilà.
Et qui n'est pas forcément une norme d'hygiène.
Ça changerait en confort. On fait vraiment des économies, réellement.
D'accord. Alors, nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous reprenons donc cet échange avec Bérangère Pasquet, coordinatrice du projet, et Mathilde Harvey, animatrice bénévole à la Passiflore. Donc le projet, c'est le Préserve Eau. Joseph Boivin, président du syndicat mixte de production d'eau potable du bassin du Couesnon. Stéphane Berthaud, qui a participé à l'opération de la Passiflore. Et Carole Lemoigne, du CLE, le Conseil local à l'énergie à Rennes. Alors je me retourne vers la Passiflore. On a vu là, l'exemple de Stéphane Berthaud, comment on pouvait vraiment très concrètement économiser l'eau. Mais est-ce que ça a été toujours aussi facile d'aller chez les gens comme ça? Bon, elle fait partie de la famille, elle a travaillé un peu à la Passiflore. Il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas... qui c'est ces gens-là? Bon, on veut bien dire, on veut bien économiser l'eau, mais quand même, laisser venir voir ce qui se passe chez soi très concrètement quand même... Mathilde.
Effectivement, ce qui est intéressant dans le témoignage de Stéphane, qui était un foyer témoin, il est typique ce témoignage des premiers contacts qu'on a pu avoir quand on a voulu recruter les foyers. La plupart des gens disaient, je fais déjà beaucoup de choses, je vois pas ce que je pourrais faire de plus, ça sert peut-être pas grand-chose que je m'implique dans le projet. Et on a insisté sur cette notion de foyer témoin, c'est-à-dire qu'on souhaitait, avec les foyers qui s'engageaient, illustrer, mettre en rapport en fait une consommation et puis des habitudes, des gestes ou des équipements. Donc c'est comme ça qu'on a invité les gens, l'objectif n'étant pas forcément de réduire leur consommation d'eau, mais d'accepter d'en témoigner pendant une année. Donc ce qui était important dans le projet, dans l'engagement, c'était d'accepter d'une part de renvoyer chaque mois sa consommation d'eau, tout en indiquant le nombre de nuitées, c'est-à-dire le nombre de personnes qui a passé une nuit à la maison, parce qu'on pense que c'est une consommation significative, il y a souvent un bain, une douche, des toilettes. Et l'autre volet, c'était d'accepter une visite de notre salarié sur ce projet, donc Bérangère Pasquet, qui devait mener une enquête pour connaître bien la composition du foyer, son niveau d'équipement, le nombre de robinets, le nombre de personnes qui y vivent, les âges, etc.
Donc là, il y a quand même une intrusion, si je puis dire, dans les foyers. Comment ça s'est passé, Bérangère?
Alors, on communique beaucoup avec les foyers témoins par une lettre mensuelle, par différents courriers, par différents mails qui s'envoyaient régulièrement. Et donc, on a proposé aux foyers témoins que j'aille chez eux vraiment pour faire une enquête. Et donc, sur la centaine de foyers témoins, 91 ont tout de même accepté. Donc à chaque fois, quand je suis allée chez les foyers témoins, je faisais plusieurs choses, notamment la mesure de la pression à l'aide d'un manomètre pour au-delà de 3 barres, il y a des risques de surconsommation d'eau en fait et de détérioration du matériel électroménager qui consomme de l'eau. Donc c'est une vérification qu'on faisait et on leur apportait différents conseils, notamment mettre un réducteur de pression si la pression était trop élevée.
Si je vais pas de réguler le robinet d'entrée au compteur d'eau, non.
Si ça se passe au compteur en fait, c'est un petit appareil qu'on place près du compteur.
Mais c'est
et
pas ça, simplement le robinet classique,
non,
là. Ça suffit pas. Hein.
Voilà, exactement.
Il suffit pas de baisser le niveau d'entrée, quoi.
Non. Ça nous a permis de recueillir différentes données, donc notamment la composition du foyer, quel matériel était utilisé. Et les foyers témoins, en début d'opération, ont réalisé un catalogue de gestes qui regroupe 109 gestes au total.
109 gestes identifiés.
109 gestes, tout à fait, dans les différentes pièces de la maison, que ce soit à la cuisine.
Uniquement sur la consommation d'eau, 109 gestes.
Consommation et qualité de l'eau.
Et qualité de l'eau, d'accord.
Voilà, donc à chaque fois que je suis passée dans les foyers témoins, on a repris ensemble tous ces gestes un par un et on a regardé ceux qui étaient déjà effectués ou non. Et ça a permis aussi de leur apporter différents conseils, notamment sur donc le matériel qu'ils peuvent mettre en place pour économiser et aussi sur les écolabels.
Alors très concrètement, ça veut dire qu'il faut mettre vraiment les points sur les i, mettre le doigt sur les problèmes, là et là.
Exactement.
Voilà, vous faites telle et telle chose, il faut les gens prennent conscience de ce qu'ils font au quotidien. Quoi.
Voilà, souvent.
Ce qu'on fait machinalement, comme ça, depuis l'enfance, et on a toujours fait comme ça, pourquoi on continuerait pas, quoi.
Enfin, il y a déjà des choses qui sont faites habituellement, sans forcément penser qu'on fait des économies d'eau, mais là, on prend conscience que finalement, ce sont des économies. Et lors de l'enquête, pour ceux qui l'acceptaient, on allait dans les différentes pièces de la maison et on voyait vraiment à la douche qu'est-ce que je peux faire concrètement, comment est-ce que je peux m'améliorer pour préserver les ressources en eau.
Alors, ça veut dire que le simple fait de procéder de cette façon, ça a incité les gens à réduire leur consommation.
Alors, je ne sais pas si ce sont les enquêtes qui ont permis de réduire la consommation ou si c'est une prise de conscience en s'inscrivant dans le projet qui a fait que les quand même 81% de nos foyers témoins ont réduit leur consommation en 2010 par rapport à l'année 2009.
Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph Boivin, justement vous étiez peut-être pas foyer témoin, mais
non,
mais comment vous voyez les choses?
Non, mais j'ai respecté après mes filles cet été qui se douchaient trop longtemps, donc on est dans la même démarche. Alors justement, donc je pense que il est important à chacun d'entre nous, hein, c'est multiplié par le nombre qu'on réussira justement à mesurer donc l'impact de cette politique. Il suffit que donc de fermer le robinet tout simplement quand on se lave les dents pour par la multiplication du nombre d'abonnés à avoir une mesure significative. C'est vrai que c'est une démarche qui est très intime, hein, qui redéfinit un peu les notions de confort qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Et c'est en cela que donc le SMBC a apporté donc sa contribution à cette opération donc Préservo menée par la Passiflore. C'est vraiment dans ce sens-là que moi je voyais les choses. Il suffit pas de... Bon, c'est vrai que les syndicats d'eau ont un intérêt, c'est celui de vendre de l'eau pour équilibrer leur budget, voire pour l'améliorer. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas notre unique but. Hein.
Voilà, vous devez garantir toute l'année l'approvisionnement.
Tout à fait.
Des foyers. Alors justement, on disait tout à l'heure, vous avez cru directement à la possibilité de faire des économies. Stéphane Berthoud n'y croyait pas forcément spontanément. Bon, chez vous, après cette expérience, ça a duré combien de temps? Un an?
Non,
un an, d'accord. Oui. Est-ce que vous êtes aperçu de ce qui consommait le plus? Est-ce que vous avez bien identifié les lieux de consommation, les principaux lieux? Qu'est-ce qui est le plus gourmand dans la vie
quotidienne? Les toilettes et les douches.
Les toilettes et les douches, hein,
oui,
principalement.
Ça,
ouais. Ouais. Et ça a été, donc ça a été ça aussi un peu partout, Bérangère et Mathilde?
Un autre point important, un poste de consommation d'eau auquel on pense pas, puis qu'on n'est pas forcément ravi de financer éventuellement, c'est toutes les fuites insidieuses qu'on peut avoir.
Ah
et
oui.
C'était un des leviers importants de...
Alors ça, c'est important dans la distribution de l'eau, dans les villes notamment, les canalisations.
Donc les fuites à deux niveaux, puisque Mathilde parle certainement de la fuite domestique du particulier, et les syndicats ont leur problème de fuite des réseaux.
Parce que je crois qu'en Ille-et-Vilaine, justement, au niveau de la distribution... en milieu rural, ce sont des investissements déjà qui ont été faits il y a très longtemps.
Alors les réseaux d'eau datent en général dans les tout premiers réseaux Bon, dans les grandes villes de 1850 à
1850. Hein.
1850, j'imagine que la ville de Rennes a été dans les premières, voire je crois que ça doit l'eau donc a été et Rennes est venue chercher de l'eau dans le Coglet dans les années 1870-1880.
Dès 1870.
Mais oui, avec un réservoir donc en amont de Rennes qui s'appelle le réservoir des Galets, qui est un très beau monument aujourd'hui et qui est toujours en service.
Avec le fameux aqueduc.
Et le fameux aqueduc. Alors, ce fameux aqueduc, il est très beau, mais bon, il perd énormément d'eau. Donc, c'est pour ça que le syndicat du mix du bassin rennais a donc en projet de rénover cet aqueduc pour donc vraiment limiter les fuites. Hein. On est vraiment dans une politique aussi, nous, d'économie d'eau.
Oui, donc Carole Lemoigne, est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais pas, si à Rennes justement, il y a peut-être un renouvellement important des canalisations, parce que effectivement, les fuites, c'est combien, 10%, 20%,
c'est 20%, 20%. Sur donc dans les syndicats ruraux.
Ruraux. Alors à Rennes, je ne sais pas si vous avez, c'est à peu près ça la même chose ou c'est moins parce que il y a peut-être davantage d'investissements
peut-être
aussi.
Peut-être un peu moins parce que c'est vrai que la densité est un peu plus donc le nombre d'abonnés au kilomètre est plus important.
Donc c'est plus facile, donc, ouais, c'est ça. Mais en milieu rural, il faut faire beaucoup de kilomètres pour retrouver les abonnés, quoi.
Et donc par contre, on a nous en contrepartie des réseaux beaucoup plus importants pour desservir nos abonnés. Et cela date de 1970. Alors c'est vrai qu'on pense qu'on pouvoir amortir ces réseaux sur une bonne cinquantaine, voire 80 ans. Mais il ne faut pas laisser se détériorer ce ratio, ce critère donc de rendement des réseaux.
Mmh. Économiser de l'eau, c'est économiser de l'argent, Carole Lemoigne?
Oui.
Un peu.
Un peu, oui.
Mais peut-être beaucoup dans l'avenir, parce que si l'eau continue d'augmenter, compte tenu du fait qu'il faut la traiter, et qu'elle devient rare.
Oui. Je ne sais pas si on pourra éviter que l'eau ne devienne pas de plus en plus chère, puisque la population augmente, il faut de plus en plus, les réseaux vont peut-être augmenter, il faut les entretenir aussi, puisque ils sont de plus en plus vieux. Donc, il y a des investissements de plus en plus importants à faire. Donc en contrepartie, je pense qu'il est vraiment important de diminuer sa consommation pour ne pas augmenter encore ce prix de l'eau qui augmentera.
Justement, dans la motivation des gens qui ont acheté les différents équipements là dont vous parliez tout à l'heure pour économiser l'eau, est-ce que la motivation économique a compté?
Oui, elle est importante.
Elle est importante. Jean-Jacques Boivin, est-ce que la motivation économique des gens, est-ce que la motivation économique compte pour dans les économies d'eau?
Alors la motivation de oui, je pense que le consommateur ne peut pas être indifférent à sa facture d'eau, parce que donc c'est vrai qu'elle prend tous les ans 2-3%. Donc c'est vrai que ceci dit, vous parliez tout à l'heure donc de l'augmentation du nombre d'habitants en Ille-et-Vilaine. Il y a des perspectives qui disent qu'on pourrait être 1 200 000 donc sur à peu près vers l'année 2030. Ça veut dire que on aura
besoin d'investissement
de ressources en plus. Ah oui. Alors c'est vrai que en conjuguant les économies d'eau de chacun et certainement une amélioration des rendements, mais qui ne peut pas être énorme, parce que 80% de rendement ou 20% de fuite sur nos réseaux, c'est déjà pas si mal. Hein. Je crois que il y a des régions où les réseaux sont beaucoup moins entretenus, et là on est sur des rendements de l'ordre de 60%. Ça veut dire que quand on envoie en tête de réseau 100 mètres cubes d'eau, on en facture à l'abonné que 60 mètres cubes. C'est vraiment pas...
Il y a une énorme perte pour une richesse qui n'est pas renouvelable comme ça aussi facilement.
Il y a un
facilement,
travail quoi. Important à faire. Et voilà.
Alors, vous avez donc fait une enquête chez les gens, vous les avez sensibilisés très concrètement, mais il y a eu aussi, je crois, d'autres opérations, des conférences, des animations diverses. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Bérangère ou Mathilde?
Tout à fait, c'était effectivement un des engagements de l'association vis-à-vis des foyers témoins qui acceptaient une certaine forme de contrainte en remplissant des questionnaires, en remplissant leur consommation chaque mois, en accueillant l'enquête. C'était de leur permettre d'accéder à plus d'informations sur l'eau, les économies d'eau, les matériels, les milieux aquatiques, comment est-ce qu'on prépare l'eau potable, comment est-ce qu'on épure les eaux usées, comment éventuellement fabriquer des produits d'entretien ménager à la maison, qui ont été organisés tout au long de l'année, donc avec le comité de pilotage. Ces animations avaient été choisies dans une liste par les foyers témoins lors du rassemblement initial et leur mise en œuvre avec des associations ou des professionnels locaux a été organisée par le comité de pilotage.
Alors ça donne quoi concrètement pour que ce soit bien parlant pour les gens? Quel type d'animation?
Alors ça a pu être une intervention sur comment économiser l'eau chez soi, comment aussi bien entretenir et préserver son réseau intérieur, oui. Soit en période de gel ou avec les surpressions et les machines qui peuvent être éventuellement endommagées.
Donc ça reprend des éléments que vous donnez quand vous allez voir les gens, quand vous étiez chez les. Quand Bérangère a fait ses enquêtes.
C'est assez différent parce que là, on a fait intervenir des plombiers, donc des professionnels.
D'accord. Ah oui, des plombiers,
qui,
oui, carrément.
Qui sont à même de présenter vraiment des équipements. Donc les personnes qui sont en situation d'investir, d'acheter une maison, de rénover ou de construire ont vraiment pu avoir accès à une mine d'informations immédiatement utilisable pour leur choix.
Alors Stéphane Berthaud, à quelles animations vous avez participé?
Celle de la fabrication de produits pour la maison.
Ah, de produits pour la maison, c'est-à-dire
De produits de nettoyage, enfin, des produits...
Des produits naturels.
Des produits naturels, avec du savon de Marseille, avec du vinaigre de cidre, du vinaigre blanc, et puis...
Alors, en quoi ça a un lien avec les économies d'eau?
Ça n'a pas un lien avec les économies. Si, parce que à la sortie, si on salit moins, si on abîme moins l'eau avec des produits dangereux, il y a moins besoin de traitement à la sortie.
Est-ce que vous faites ça aux clés aussi, des animations comme ça? Ou est-ce que c'est dans une approche plus individuelle, enfin uniquement individuelle?
Oui, alors nous, dans le cadre de nos missions au CLÉ, on reçoit les personnes qui ont des projets de construction, donc on les.
Là, c'est important. Il faut commencer par commencer par la construction. Effectivement, c'est le moment propice pour faire en sorte que les choses soient bien pensées, plutôt que de les corriger par la suite, quoi.
Ouais, voilà, tout à fait. Donc notamment, il y a des gens qui arrivent avec des projets de récupération d'eau de pluie.
Oui. C'est développé ça aujourd'hui ou pas? Vous savez, non? Les récupérations d'eau de pluie, Joseph Boivin ou?
Ou Bérangère.
Ouais, sur nos foyers témoins, si on prend uniquement les foyers qui vivent en maison, 72% récupèrent l'eau de pluie.
Des foyers témoins. C'est votre cas aussi
Non, j'habite en appartement.
Ah oui.
Voilà. Ouais. Mais la majorité l'utilise uniquement pour l'arrosage, pour le jardin. On a juste un ou deux foyers qui l'utilisent vraiment pour la maison, dont un qui l'utilise pour les toilettes, lave-vaisselle, machine à laver.
Alors, votre expérience a été quand même remarquée. Vous avez eu une récompense récemment? Allez, soyez pas trop modeste, Mathilde.
Effectivement, le projet a été retenu par un groupe de presse, donc le groupe de presse Mondadori, et en particulier 8 magazines récompensaient une femme qui agissait en France pour le développement durable. Et j'ai été récompensée avec le comité de pilotage pour le projet Préservo par le magazine Pleine Vie.
Donc en tant que personne, quoi. Enfin, c'était symboliquement la personne qui s'est occupée de la démarche.
Effectivement, il fallait identifier une femme qui avait porté ou initié le projet, mais c'est vrai que nous, on avait tout le comité de pilotage qui était très actif aussi derrière.
Donc à Fougères, vous êtes une des femmes de l'année 2010. Ne rougissez pas. Voilà. Alors bon. Là, les quelques minutes qui nous restent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, en fait, on est invité à changer un peu de mode de vie. Alors, on a parlé des économies d'eau, on aurait pu parler de la récupération, enfin des déchets tout à l'heure. Hein, on a commencé par ça, l'énergie aussi. Hein, c'est ça. Il faut un mode de vie plus sobre aujourd'hui pour aller dans le sens de la garantie des ressources futures par rapport au développement attendu de la planète et même là localement en Ille-et-Vilaine.
Oh bah oui, je pense que c'est vraiment. Chacun dans son quotidien qui peut agir. Je pense que maintenant tout le monde connaît les effets d'une surconsommation énergétique sur le climat. Et je pense que voilà, c'est vraiment rentré dans les mœurs.
Parce qu'il y a parfois une sorte de schizophrénie. On entend discours développement durable, et puis on apprend récemment encore que la population de 4x4 se développe, c'est très recherché encore aujourd'hui en France, que les écrans plats des téléviseurs ne s'éteignent pas, ils restent en veille. qui consomment donc 10% de ce qu'ils consomment quand ils sont allumés, ce qui fait que sur 24 heures, s'ils sont allumés 2 heures, les 22 heures où ils sont éteints consomment davantage que les 2 heures où ils sont allumés. Et ça, c'est les grandes firmes qui les produisent. Joseph Boivin, comment vous voyez cette société là qui a parfois deux discours, enfin un discours très développement durable, très bobo, on va dire, et puis un autre des choses qui sont assez contradictoires.
On est dans une société de liberté. Il est vrai que chacun fera, jusque tant que les ressources le permettront, un peu ce qu'il voudra, mais il peut y avoir aussi un comportement en parallèle, un comportement citoyen qui se développe et qui permette au moins l'éducation donc à ce développement durable. Je pense que donc on ne peut moi je suis certain qu'on sera toujours approvisionné en eau aussi, mais moyennant donc par contre des investissements conséquents et là je crois que bon, maintenant, il nous faut faire davantage plus attention à l'argent public notamment, pour passer et investir à bon escient. Alors c'est vrai que si donc on a une perspective en Ille-et-Vilaine de 1 200 000 habitants, il nous faut prévoir l'approvisionnement de ces habitants. Et donc si en parallèle à l'augmentation de la population, on a une économie de chaque citoyen, je pense qu'on peut se permettre des économies par rapport à ça.
Joseph Boivin, merci. Je rappelle que vous êtes président du syndicat mixte de production d'eau potable du bassin de Couesnon. Merci à Bérangère Pasquet, coordinatrice du projet de la Passiflore, Mathilde Harvey, animatrice et qui a été femme de l'année pour les économies d'eau. Merci à Carole Lemoigne du Clé et à Stéphane Berthaud d'avoir accepté de témoigner de choses relativement intimes de sa vie quotidienne. Merci.